Je suis Patrick Pécat, chercheur associé au laboratoire d'histoire visuelle contemporaine, le LIVIC, qui dépend de l'école des hautes études en sciences sociales. Je parlais de la tapisserie de Bayeux. Je voudrais quand même situer un petit peu d'où je parle, entre guillemets. La visual culture, la culture visuelle, c'est en fait la rencontre des cultural studies et des visual studies. Les cultural studies qui viennent de l'étude des cultures ouvrières, des jeunes, du rock, de la base, des bandes dessinées, etc. Donc avec un intérêt pour les cultures populaires et pour les objets indignes. Et les visual studies en deux courants, courant américain et courant britannique, et donc qui s'intéresse à toutes les images et qui abandonne les hiérarchies et les jugements esthétiques. Donc, et qui présente un intérêt pour les images dévalorisées. Donc le regard des cultural studies et des visual studies est conjugué dans la visual culture. C'est un regard culturel et donc on défend le caractère construit de la vision et la nécessité d'adapter les méthodes aux spécificités des objets étudiés. Donc ce qui explique que le point de vue avec lequel je vais faire mon exposé un petit peu, cette œuvre a fait l'objet de multiples études selon diverses disciplines, donc je vais pas les citer toutes, hein, l'histoire de l'art, l'analyse des textes médiévaux, etc. Ici, le point de vue que je vais formuler, c'est pas celui d'un médiéviste ni même celui d'un historien, c'est celui d'un chercheur en études visuelles qui s'est intéressé à la composition graphique de la tapisserie, de cet objet, c'est-à-dire l'agencement des images et des textes, des espaces et des filets, et également à ses évocations visuelles, c'est-à-dire ses références et ses allusions dans la culture ordinaire, dans la culture populaire. Donc ce petit volet, je ferai quelques slides à la fin pour situer un petit peu. Donc, rappel, l'autre nom de la tapisserie, c'est la tapisserie d'Arène Mathilde, plus anciennement Telle du Conquest, Toile de la Conquête. L'attribution à Mathilde, femme de Guillaume, est une légende, bien entendu. Ce n'est pas une tapisserie, tout le monde le sait, c'est une broderie. Et c'est une bande de toile de lin brodée d'environ 68 mètres et 50 cm de large. Donc, aux proportions de l'écran, ici, ça donne un objet qui a cette dimension-là. Donc, on comprend tout de suite que son appréhension dans son ensemble est quasiment impossible, d'où la nécessité de le découper en scènes qui paraissent simples. Et en fait, ce n'est pas si simple. La nomenclature, donc, dans la tapisserie, on a 626 personnages, 202 chevaux, 55 chiens, 450 autres animaux, souvent fantastiques. Je vais essayer. 32 navires, 37 édifices, 49 arbres. Pourquoi j'ai mis édifices et arbres en gras? Parce que ce sont les séparateurs de scènes. Habituellement, les scènes sont séparées par des édifices et des arbres dans la tapisserie, en règle générale. Donc un résumé de l'histoire, ça nous raconte une série d'événements qui se sont déroulés de 1064 à 1066 et qui ont conduit donc à la conquête de l'Angleterre par le duc Guillaume de Normandie, Guillaume le Conquérant, Guillaume le Bâtard, Guillaume de Normandie. Donc l'œuvre a probablement été commandée par l'évêque Odon de Bayeux, qui était le demi-frère de Guillaume, un des deux demi-frères de Guillaume, et qui figure lui-même à de nombreuses reprises sur la tapisserie. La date est incertaine, hein, la fourchette basse est 1066, la fourchette haute 1082, mais c'est antérieur à la chanson de Roland quand même, vers 1090. Réalisée probablement en Angleterre, pour être exposé à la table de Bayeux, ça c'est à peu près certain. Bon, ce que je situe en général, c'est des choses qui sont certaines. Il y a beaucoup d'incertitudes encore sur la tapisserie, mais je vais essayer d'exposer des choses qui sont acquises. Et le point de vue est très favorable, évidemment, au point de vue des Normands. La fin est manquante et elle devait se terminer par le couronnement de Guillaume, comme roi d'Angleterre, bien sûr. Alors les principaux personnages donc côté anglo-saxon, le roi Édouard le Confesseur qui fut dans sa jeunesse exilé 25 ans auprès de son oncle le duc Richard II de Normandie avant de devenir l'avant-dernier monarque anglo-saxon en 1043. Donc du fait de sa jeunesse en Normandie, il a un lien très fort avec la Normandie. Il meurt sans descendance le 3 janvier 1066 et il fut canonisé ensuite en 1161. Second personnage majeur, évidemment, le comte Harold Godwinson, fils de Godwin de Wessex, descendant de chefs vikings par sa mère. Il est le beau-frère d'Édouard et revendique la succession du trône d'Angleterre. C'est le dernier roi anglo-saxon avant la conquête normande. Du côté normand, Guillaume de Normandie, enfant naturel du duc Robert le Magnifique et d'Arlette de Falaise. Alors c'était un mariage, ce qu'on appelle moré danico, à la manière danoise, puisque à cette époque, donc 150 ans après la conquête, après Roland, chef viking qui fut premier duc de Normandie, il y avait encore des coutumes qui étaient héritées des vikings, et donc il était considéré comme bâtard pour l'église et pour la succession habituelle chez les francs, mais il était légitime pour les normands, et il a fallu qu'il se batte néanmoins pour s'imposer comme duc de Normandie. Il se considère également comme le successeur d'Édouard au trône d'Angleterre. Deux autres personnages sont essentiels, les deux demi-frères de Guillaume, l'évêque Odon de Bayeux et le comte Robert de Mortain. Alors la succession d'Édouard, elle est assez compliquée, donc j'ai surligné les personnages principaux. En bas à droite, Édouard le Confesseur, c'est-à-dire le roi d'Angleterre, et puis les prétendants. Donc on voit Guillaume le Conquérant, on voit Harold Godwinson, mais on voit également apparaître un roi de Norvège, Harald III de Norvège, qui est absent de la tapisserie, mais qui est fondamental, dont le rôle est fondamental, en creux, on va dire. Donc c'est une omission très importante de la tapisserie. En fait, on appelle ça les trois batailles. Donc on va restituer un petit peu rapidement. Harald Hardrada, Harald le Sévère de Norvège, allié à Tostig, frère de Harold, a envahi le Yorkshire et revendique également le trône d'Angleterre. On a vu d'après l'arbre généalogique qu'il a aussi des revendications relativement légitimes au trône. Harold est battu par Harald à la bataille de Fulford le 20 septembre 1066. Cinq jours après, Harold écrase Harald, donc le roi de Norvège, à Stamford Bridge, le 25 septembre, où Harald, donc le Norvégien, et Tostig, le frère de Harold, sont tués. Quelques jours après, Guillaume débarque le 28 septembre à Pevensey. Harold apprend seulement le 2 octobre que Guillaume a débarqué. Il fait une marche forcée depuis le nord, donc du Yorkshire, vers Hastings. Donc après deux batailles, on imagine bien, et après deux batailles et après une marche forcée, on imagine bien que l'armée de Harold est épuisée. Et donc les armées anglaises et normandes s'affrontent et Harold est tué. Et donc la succession de ces événements-là, qui ne sont effectivement pas dans la tapisserie, puisque c'était un point de vue normand, montre que Harold avait quand même relativement peu de chances de sortir vainqueur de cet affrontement. Bon, la structure normale de la composition de la tapisserie, ce sont des scènes numérotées de 1 à 58. La narration principale se déroule dans l'espace central, délimité par deux filets, et les deux marges illustrées encadrent cet espace central et mesurent chacun 7 à 8 cm. Le texte figure dans l'espace principal sous le filet supérieur. On en verra plein d'exemples, donc... L'œuvre textile maintenant. Alors, l'analyse de l'œuvre textile a montré que toute la bande brodée, c'est-à-dire les frises hautes et basses, les marges, les inscriptions et la scène centrale ont été exécutées en une seule opération. Donc c'est une composition qui s'est faite en une seule fois. Ça, c'est très important à noter. Et par contre, on sait aussi qu'il y a eu de nombreuses restaurations qui ont été effectuées à des endroits divers et à des époques diverses. Donc j'ai mis ici l'envers et le revers du début de la tapisserie, la scène 1. Alors les inscriptions, le texte est écrit dans un latin élémentaire. Le latin était la langue officielle en Normandie, alors qu'en Angleterre, c'était le vieil anglais. Ça donne un caractère officiel à la tapisserie, celle d'une histoire qui fait autorité, le fait d'avoir des inscriptions en latin. Alors sur le plan de l'analyse, certains mots tels que cabalus et parabolante sont romans, et un locuteur anglais aurait utilisé equus et le corps. À l'inverse, des mots comme Saestra Bajer et surtout une graphie comme GIR avec un D barré, Gers, le frère du roi Harold, qui figure dans la tapisserie, donc montrent qu'on a une influence de locuteurs anglais. Donc c'est pas aussi net, on a certainement eu plusieurs locuteurs, tant côté anglo-saxon que normand, qui ont participé à l'élaboration du texte. Donc maintenant, on va passer en revue les principales scènes. Je ne vais pas faire les 58, parce que ça demanderait trop de temps. Mais les principales, celles qui sont vraiment marquantes, qui permettent de comprendre le déroulé et la narration de la tapisserie. Donc j'ai mis un commentaire en haut, une reproduction de la tapisserie, et puis le texte en latin et la traduction en dessous. Donc, entrevue entre le roi Édouard, donc scène 1 et 2, Entrevue, on est en 1064. Entrevue entre Édouard le Confesseur et son beau-frère, le roi Harold. Édouard envoie Harold voir Guillaume à propos de sa succession. Alors, c'est tout ce qu'on sait. Hein. Harold chevauche avec son faucon, ses chiens de chasse et, sa suite vers le manoir de Bosham. Alors, sur le plan de l'aspect visuel, tous les Anglais ont des moustaches. Et la structure de composition est respectée, c'est-à-dire qu'on a une marge haute, une marge basse, qui sont bien délimitées, avec la narration dans la bande principale et le texte qui court en dessous du filet supérieur. Scène 4 à 6, Harold navigue vers le continent, et il échoue par erreur sur les terres du comte Guy de Ponthieu, dans la Somme, où il est fait prisonnier. Alors, on note que seuls les navires qui ont les voiles gonflées figurent en débord sur la marge supérieure. Donc, le dernier navire à droite, qui n'est pas souvent, est intégralement dans la marge, dans la narration principale. Scènes 14 et 15, un espion prévient Guillaume de la capture de Harold, donc ça sont dans les scènes 10 et 11 qui sont pas reproduites ici. Guillaume fait relâcher Harold et le roi reçoit dans son palais à Rouen. Et on a une scène énigmatique ici, là, qui est une des scènes les plus qui a fait couler le plus d'encre certainement de la tapisserie, où un clerc frappe une femme nommée Elgifa sous un portique, et un homme nu en bas, ici, dans la marge, suggère que la scène a une connotation sexuelle. Alors deux tours encadrent les scènes, on le voit ici. Donc ça, c'est un marqueur. Les tours et les arbres sont des marqueurs de scène. Et deux pans dont un fait la roue en marche supérieure, on suppose que c'est quelque chose qui marque un petit peu la majesté du roi, du duc Guillaume. Scènes 16 et 17, Harold est désormais l'objet de Guillaume, puisqu'il a été libéré grâce à Guillaume, et il l'accompagne dans son expédition contre le duc Conan II de Bretagne, et il se rend au Mont-Saint-Michel puis à Dole. Harold sauve deux soldats normands des sables mouvants, cette scène-là. Hic Harold Dux Traebateos de Arena. Harold est représenté, on le voit très positivement, chevaleresque, et le Mont-Saint-Michel figure, lui, en débord sur la marge supérieure. Alors, lors de la campagne de Bretagne, scène 23 et 24, la ville de Dole est prise, les Normands se rendent ensuite à Rennes, puis à Dinan, et Conan livre les clés de Dinan à Guillaume, le duc Conan. Guillaume donne des armes à Harold, ce qui est un signe de vassalité pour les Normands, puisqu'il y avait un régime féodal, mais pas pour les Anglais, qui ne connaissaient pas le régime féodal encore à cette époque. Et il l'emmène à Bayeux. Harold prend serment en présence de Guillaume, sur deux reliquaires, ici. Et tous les analystes estiment que c'est la scène du serment qui est vraiment la scène du point central de l'histoire, celle qui explique toute la narration. Harold rencontre le roi Édouard. Et à la fin de 1065, l'abbaye de Westminster est prête à être consacrée lorsque le roi meurt. Alors, un homme pose le coq sur le clocher de l'église, ici, et la main de Dieu consacre l'abbaye de Westminster. Alors, curieusement, la scène de l'enterrement précède celle de la mort du roi, ici. Et on a deux, c'est le seul endroit de la tapisserie où on a deux scènes superposées. Harold est donc couronné roi avec à sa gauche l'évêque de Canterbury, Stigand Archiepiscopus, et un groupe d'hommes observe la comète de Halley. Alors on sait maintenant que c'est la comète de Halley, à l'époque c'était une comète, c'était une étoile mystérieuse évidemment. Alors on pense que c'est l'archevêque Alfred d'York qui a en fait couronné le roi d'York, puisque à l'époque Stigand, qui a été excommunié par cinq papes successifs, c'est peu probable qu'il ait pu couronner le roi Harold. Et donc le fait de représenter Stigand, c'est bien un point de vue normand qui veut signifier par là que le couronnement était nul selon le point de vue normand. Alors, un navire à bord en Normandie et un messager apporte à Guillaume la nouvelle du couronnement de Harold, ce qui ne lui plaît pas à Guillaume. Guillaume donne l'ordre de construire une flotte. les navires sont chargés d'armes et de provisions en scène 37. Toutes ces scènes-là, de fabrication des navires, etc., sont extrêmement importantes pour la compréhension de la fabrication des navires et la connaissance des outils utilisés au Moyen-Âge. Scène 38, la flotte, donc la flotte d'invasion, cette fois, traverse la Manche et arrive à Pevensey le 28 septembre 1066. On note que les navires débordent sur la marche supérieure et certains navires sont figurés éloignés. Évidemment, à l'époque, la perspective, ce n'était pas tout à fait ça. Mais c'était une manière de montrer l'importance de la flotte. Alors, comparaison avec les navires anglais, c'est un des grandes différences qu'on a entre la représentation des Anglais et des Normands. On a une discontinuité chez les Anglais sur les navires anglais dans la partie centrale qui n'existe pas sur les navires normands. Donc, il y a une fidélité assez pointue de la part des artistes de la tapisserie concernant ce petit détail. Les Normands chevauchent jusqu'à Hastings. Ils s'approvisionnent dans le pays, puis préparent un banquet. L'évêque Odon bénit le banquet, et on sait que cette scène-là était le vendredi 29 septembre, jour de jeûne respecté par l'évêque qui a un poisson devant lui. Guillaume tient conseil avec ses deux demi-frères quand on l'informe de l'approche de Harold. Alors, c'est en fait le seul endroit de la tapisserie où, en creux, on a bien le fait que Harold est occupé à autre chose. Il est occupé à combattre Harald et à battre Harald le Sévère au cours de deux batailles successives. Puisqu'en fait, les Normands ont le temps de fabriquer, de banqueter, de fabriquer une motte castrale, etc. Durant tout ce temps, Harold est occupé à batailler contre Harald. Les Normands construisent une motte castrale à Hastings et incendient les habitations du voisinage. Alors, près d'une maison incendiée figure une des rares figurations féminines ici. Guillaume se prépare à monter à cheval et la cavalerie normande s'élance à la rencontre de Harold. Alors, Harold voulait surprendre Guillaume, mais son plan est déjoué par les éclaireurs de Guillaume. Guillaume porte un gourdin et derrière lui se tient Robert ou plus probablement l'évêque Odon. Donc ici Guillaume, et derrière, très probablement, l'évêque Odon, les ecclésiastiques n'avaient pas le droit de porter l'épée. Alors selon le Domesday Book, ici Vital, le Domesday Book, c'est l'inventaire de l'Angleterre réalisé après la conquête sur ordre de Guillaume, Vital est un tenancier d'Odon. Donc la bataille principale scène, donc on est à la scène 52, la bataille de Hastings commence, elle fait rage, deux frères de Harold sont tués. Les scènes de bataille occupent environ un cinquième de la tapisserie, donc c'est considérable. Et la marge inférieure est alors occupée par des figurations de morts et de blessés. Toute la marche les marches supérieures et inférieures auparavant étaient occupées par des figurations diverses, souvent des animaux. À partir de la bataille de Hastings, la marche inférieure est occupée par des blessés et des morts. Donc on a un débord de la narration principale vers la marge inférieure. Alors les Anglais n'ont pas de cavalerie, c'est aussi un des signes distinctifs qu'on a, et ils ont des boucliers ronds, autre signe distinctif. Donc ça c'est un Anglais, ça c'est un Anglais, ça c'est un Normand. Les Anglais n'ont pas de cavalerie et ils ont des boucliers ronds. Remarquez la graphie D du nom Gertz, donc ce qu'on a signalé tout à l'heure, typiquement anglaise. Alors la bataille oppose Franqui et Angli. Ix esiderunt simul Angli et Franqui in prelio. Le terme Normanie, en fait, apparaît très peu dans la tapisserie. L'armée de Guillaume est composée de Normands, de Bretons, de Français. Elle est extrêmement éclectique. Alors l'évêque Odon ne porte pas l'épée. Il est figuré avec un gourdin, en scène 54, ici. Selon Guillaume de Poitiers, les Normands crurent que Guillaume était mort et commençaient à fuir. Guillaume se fait reconnaître en enlevant son casque, ici. Donc c'est un tournant décisif, d'après Guillaume de Poitiers, de la bataille. Eustache est probablement, Eustache ici qui apparaît, dont le nom est en fait un petit peu masqué, est probablement Eustache de Boulogne, et il est possible que son nom ait été partiellement effacé après une disgrâce. C'est une des nombreuses énigmes de la tapisserie. Donc, fin de la tapisserie, Harold est tué, ici, il reçoit une flèche dans l'œil, puis il est frappé à la jambe, ici, au sol. Les Anglais sont vaincus et prennent la fuite. Et dans la marge inférieure, à droite, vous remarquez un homme qui enlève la cotte de maille d'un mort. Donc ça, voilà pour la narration générale de la tapisserie. On va s'intéresser aux marges. De nombreux motifs d'animaux, parfois fantastiques, sont représentés par deux en vis-à-vis. Plusieurs fables d'Ésope figurent dans les marges, par exemple ici en scène 4, donc on a les couples d'animaux, très souvent ici qu'on voit. Et puis ici on a la scène du corbeau et du renard, qui figure d'ailleurs deux fois dans les marges. Alors il y a de multiples interprétations concernant les marges, j'en ai signalé quelques-unes là. Elles sont, les fables et les animaux figurent dans les marges, sont souvent interprétées comme des commentaires, des indicateurs, des reflets, des avertissements, etc. Ou alors, les créatures des marges sont souvent conscientes des événements décrits sur le registre principal. Et comme elles sont invisibles, donc une des interprétations, c'est qu'elles sont là pour amuser. Et enfin, une interprétation qui a été faite également, c'est qu'elles sont un petit peu comparables à la musique qui accompagne le déroulement d'un film. Alors, parfois, il y a une relation entre ce qui est dans les marges et ce qui est dans la narration principale. L'exemple le plus typique, c'est les scènes 32 et 33, où on voit un groupe d'hommes qui observent la comète de Halley, et plus loin, en dessous de la scène, où Harold écoute un messager, des esquisses de bateaux sont dessinées. Ici, les hommes regardent la comète de Halley, et en dessous, ici, on voit des esquisses de bateaux dans la marge inférieure. Donc une interprétation habituelle, c'est de dire que Harold voit la comète en marge supérieure, un signe de Dieu et un présage funeste d'une flotte d'invasion en marge inférieure. Donc on a trois espaces distincts qui pourtant fonctionnent ici ensemble. Alors on va s'intéresser maintenant au débord, c'est-à-dire au motif qui, depuis la narration principale, vont dans la marge supérieure ou inférieure. Donc les filets ne sont pas des limites totalement infranchissables. On a parfois des débords. Et la typologie des débords, en fait, surtout sur les débords inférieurs, est très limitée. On voit un oiseau, des pieds, des soldats blessés ou morts pour toutes les scènes de bataille vers la fin de la tapisserie, des lances, etc. Les débords supérieurs sont plus nombreux, mais la typologie est quand même relativement facile à établir. On a des édifices et des navires, des lances, des épées, des haches, des boucliers, etc. Tous les éléments que j'ai cités ici. Et on voit que les plus importants sont quand même les édifices et les navires pour les débords supérieurs. Alors, une des interprétations, ce serait des motifs transgresseurs qui illustreraient une sorte de leçon de passage. Les marges sont des limites et des pans architecturaux, des lieux d'énonciation qui disposent d'un extérieur et d'un intérieur et qui permettent un passage. Donc ce sont des objets ou des situations qui transgressent, tels que par exemple un navire qui va d'une rive à une autre, des armes qui font passer de vie à trépas, les fenêtres qui laissent entrer le regard, les oiseaux messagers, etc. Tous ces éléments qui sont dans la mentalité, on va dire, médiévale, hein, si on peut se projeter, sont des motifs transgresseurs qui sont effectivement figurés comme pouvant déborder sur les marges supérieures ou inférieures. Alors les débords majeurs, je les appelle débords majeurs parce qu'ils occupent presque intégralement l'espace de la marge supérieure en surplus de la bande centrale. Ce sont toujours des navires ou des édifices, on ne voit pas d'autres éléments. Exemple en scène 4 et 6 où Harold se rend sur le continent, donc les navires sous voile sont en débord majeur sur la marge supérieure. En concernant les édifices, bon, c'est encore plus limité, et on a en fait la succession Le Mont-Saint-Michel-Dinan qui figure en débord majeur concernant les édifices, où là c'est l'époque de la guerre en Bretagne, Bayeux-Westminster où Harold est sous serment, Westminster, Harold viole son serment et devient roi, et de Rouen jusqu'à la fin, on a la guerre de Guillaume contre Harold. Donc on a une sorte de scansion de ce qui est le plus important. Alors c'est mon interprétation, ça vaut ce que ça vaut. De ce qui est le plus important du point de vue de Dieu, c'est-à-dire une succession guerre, serment, parjure et guerre à nouveau. Donc les filets dessinent trois mondes. Entre les deux filets, la narration principale évolue dans un monde 1, où sont figurés des enchaînements des événements du monde réel. Le monde est explicité, délimité par un texte qui court tout près de la limite. La marche du haut constitue un monde 2, et qui se réfère au ciel et à l'intervention divine. C'est une sorte de point de vue de Dieu sur les affaires des hommes. Et les séparateurs qui constituent les édifices issus du monde 1 et empiétant sur le monde 2 isolent en quelque sorte les éléments qui sont les plus importants selon son point de vue, ce point de vue divin, c'est-à-dire la guerre et le serment. La marche du bas est un monde 3 qui est associé au monde 1 où les humains évoluent, mais c'est très nettement distingué du monde 1 comme le signale le filier inférieur qui est pratiquement toujours continu. C'est donc un monde hermétique et allégorique qui se réfère à la fois aux rêves, à l'interprétation des signes, à la prémonition des événements, comme les fables, et il ne devient explicite que lors de la bataille de Hastings, lorsque le monde 1 est tout entier plongé dans l'action, et qu'il n'y a plus de place pour l'allégorie et la prémonition. Donc le monde 3 et le monde 1 se confondent tout en demeurant distincts de celui-ci. Alors je vais maintenant terminé par quelques, ce qu'on appelle des évocations visuelles dans la culture populaire de la tapisserie. Donc je change de registre, là on est à l'époque moderne. Donc quelques exemples pris dans la Seconde Guerre mondiale. Donc 20 jours après le débarquement de Normandie, le magazine Life fait une allusion claire à la, donc, en parlant d'une « old invasion » avec une double page sur la tapisserie de Bayeux, qui met en relation les événements en cours du débarquement avec les événements qui sont passés 900 ans auparavant. Le New Yorker également fait sa une le 15 juillet 1944, sous cette manière-là. Donc on a une autre évocation visuelle. Donc durant la Seconde Guerre mondiale, on a plusieurs exemples comme ça où on a une relation entre les événements en cours du débarquement et puis les événements de la tapisserie de Bayeux. Et également, Overlord Embroidery, il y a eu une tapisserie de fête qui est donc sur le modèle de la tapisserie de Bayeux, du D-Day. Et dernier exemple, qui est un peu curieux, dans le film The Vikings, on a tous les clichés sur les Vikings et les Drakkar, mais on n'a pas seulement ça, donc ce qui va me permettre de terminer sur un petit film. Donc c'est assez remarquable que Richard Fleischer ait utilisé la tapisserie de Bayeux pour illustrer des événements qui se passaient bien antérieurement, donc 8e au 9e siècle, dans le monde viking. Donc je termine simplement par une petite bibliographie. Il y a pas mal d'ouvrages, donc je pense que c'est parmi les ouvrages qui sont les plus sérieux, les plus importants, qui sont des comptes rendus de colloques. Et puis le David Wilson, il est très bien fait, avec de très belles illustrations. Et je vous ai mis également une bibliographie complémentaire, mais à utiliser avec relativement de précaution, puisque bon, ça se reporte plutôt au 12e et 13e siècle, et on est, c'est pas la même période tout à fait quand même. Je vous remercie.